Pour ceux et pour celles qui s'en souviennent, le 21 décembre dernier a eu lieu dans notre ciel un événement à la fois régulier, environ tous les 80 ans, mais à la fois rarissime. Sa dernière vision, en 1623, n'avait déjà pas vraiment pu être observée. Et la fois précédente, où on a des textes qui nous disent que cet événement a été vraiment observé, c'était en 1226. Et j'ai nommé la grande conjonction entre Jupiter et Saturne. Conjonction que nous n'avons malheureusement pas pu observer à cause d'un ciel couvert. Cette conjonction est en réalité un espèce d'effet d'optique dont le résultat donne un super éclat dans le ciel, étant donné que Jupiter et Saturne sont des astres très lumineux. Effet d'optique dans le sens où, ici vu de la Terre, et quand vous regardez dans le ciel, ces deux planètes très proches l'une de l'autre, vues de la Terre, donnaient un super éclat. Alors qu'en fait, elles sont distantes en profondeur de milliers d'années-lumière. Et si vous avez écouté un petit peu l'explication donnée à ce sujet, il fallait idéalement des jumelles ou idéalement un télescope pour vraiment discerner la proximité de ces deux planètes et de les dissocier. Mais à l'œil nu, on avait une espèce d'addition et de grosses boules lumineuses dans le ciel. Ce rapprochement avait commencé, en tout cas, un temps, des semaines ou peut-être des mois avant d'atteindre cette distance minimale. Et ce lundi 21 décembre, au jour du solstice d'hiver, elle donnait l'impression que ces deux astres ne faisaient qu'un super luisant. Ce phénomène, j'ai vu en recherchant un peu sur Internet, pour me documenter un petit peu plus précisément sur ce phénomène. J'ai vu aussi que ce phénomène est appelé par certains « étoile de Noël ». Est-ce que c'est un phénomène comme ça que les mages ont suivi? Nul ne le sait et je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais je sais aussi que Dieu peut utiliser des événements, des éléments naturels pour révéler ce qu'il veut révéler. Et dans sa prédication du 20 décembre, le pasteur nous faisait remarquer que la fête de Noël, fête chrétienne par excellence, était devenue une sorte de fête populaire pour la grande majorité, où le côté festif prenait le pas sur le sens profond de cette venue, où le bien manger et le bien boire au cours d'une soirée, entouré de sa famille et de ses amis dans une ambiance chaleureuse, où l'on oublie pendant quelques heures les heures et malheurs du monde. Et je pense que, malheureusement, l'épiphanie n'y échappe malheureusement pas non plus, avec sa belle galette, avec sa fève dedans, servant à désigner le roi ou la reine de l'assemblée. Parce que, si vous le remarquerez ici, de mages ou de savants, ils sont devenus rois. Parce que j'imagine que c'est probablement plus prestigieux, plus porteur. Et on connaît même leur nombre et leur nom. Je ne donnerai pas leur nom, mais je suis sûr que tout le monde dans sa tête a déjà pu dire leur nom. Voilà. Pourtant, à y regarder de plus près, la venue et la vie de Jésus sur cette terre est tout sauf une fête, est tout sauf une partie de plaisir. Parce que on peut commencer par parler de conception et de naissance problématique au plus haut degré pour les fiancés, mais on n'y reviendra plus ici maintenant. Et l'événement que nous fêtons aujourd'hui est tout aussi problématique. Souvenez-vous, dans la lecture, Matthieu nous parle du trouble d'Hérode et du peuple. Bref, ce Jésus-là, il est plus un problème qu'une solution aux yeux du monde. Et pourtant, ce récit est riche en symboles et en enseignements. Savez-vous ce que signifie Bethléem, le lieu de naissance du Christ ?
Maison de pain.
Oui, tu ?
Maison de pain.
Exactement, c'est la maison du pain. C'est un curieux hasard, ou pas ? Je suis le pain de vie, disait Jésus, ou dans notre Père. Donne-nous notre pain quotidien. Dans sa liturgie de Sainte-Cène, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit à ses disciples, etc., etc. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Le pain est un aliment de base dans beaucoup de sociétés. Des mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Vous rendez-vous compte que ces personnes, à milieu de Jérusalem, doivent quand même avoir une fameuse érudition pour connaître cette prophétie. Par quel mécanisme y accordent-ils suffisamment d'importance pour se mettre en route vers l'ouest ? Nul ne le sait. Et pourtant, c'est le seul élément dont ils disposent pour le moment. Aujourd'hui, on peut boucler sa valise le matin, faire le plein de sa voiture et se retrouver le soir sur la Côte d'Azur à prendre un dernier bain avant le soir et tout cela un bon millier de kilomètres plus bas. On peut très bien embarquer dans un avion et se retrouver, si le vol est direct, en 24 heures à l'autre bout de la Terre. Mais imaginez-vous, il en allait tout autrement à cette époque, car se mettre en route à cette époque-là, c'était plus qu'une aventure, parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait que des pistes, et quand il y en avait, il n'y avait pas de voiture, de train ou d'avion, juste des chameaux et une bonne paire de sandales. Il n'y avait pas non plus d'assurance d'arriver à bon port, vivant, ni de revenir entier. Quelle distance ? Aucune idée précise. Mais on y allait quand même. Combien de temps va durer ce voyage ? On n'en savait rien exactement. Longtemps, des semaines, mais quelle importance ! Fameuse leçon de foi de leur part, ne trouvez-vous pas ? Si on avait été dans un beau conte de Noël ou dans un film d'animation pur style Walt Disney, on imagine que le scénariste les aurait fait directement arriver avec quelques petites difficultés, évidemment, pour entretenir le suspense, mais les aurait fait directement arriver au pied de l'enfant Jésus. La réalité est tout autre. Ils cherchent un roi nouveau-né pour les Juifs et pour aller l'adorer. Donc, la logique veut qu'ils se rendent là où on peut trouver un roi, dans sa ville, bien entendu. Et donc, arrivés à Jérusalem, ils cherchent de quoi se loger, on peut l'imaginer, aller à la maison des voyageurs, et puis là, eh bien voilà, on va commencer à passer à l'étape suivante et à se renseigner pour voir où on peut trouver ce roi des Juifs. Et donc, à l'hôtel, sur les marchés, on peut imaginer qu'ils posent des questions. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Est-ce que vous savez où je peux le trouver ? Bon, écoutez, laissez-moi tranquille avec vos histoires. Je n'y comprends rien. J'ai du travail, j'ai des clients. Laissez-moi, s'il vous plaît. Et ainsi de suite. On peut imaginer qu'ils ont fait un peu le tour autour d'eux. Parce que vous imaginez, un roi qui naît, ben, ça doit se savoir, ça doit se connaître. On doit pouvoir être renseigné. Et là, rien. Personne ne semble savoir de quoi il parle. Comme vous pouvez le voir déjà maintenant, on est loin d'un conte de fées. On est à 100 lieues de la jolie petite crèche, avec ses petites statuettes, ses petits santons provençaux, représentant les différents personnages et animaux qui la peuplent, et qui pour certains sont des vrais collectors. Crèche en dessous d'un sapin garni avec des décors, des guirlandes, toutes plus flamboyantes les unes que les autres. Mais la nouvelle finit quand même par produire l'effet d'une bombe, si je puis dire, puisqu'elle arrive à un moment donné aux oreilles du roi Hérode, qui, à ce moment-là, se dit « Je vais les convier au palais ». Et il fait convier ses mages au palais pour avoir toutes les infos sur un possible concurrent. Et Matthieu nous dit ici que Hérode et tous les habitants de la ville furent troublé. Et donc, Hérode, après avoir appris le but de la visite de ses mages, fait venir toutes les sommités religieuses au palais pour apporter une réponse qui, finalement, arrive assez vite. C'est à Bethléem, la maison du pain, que doit avoir lieu cet événement. Voilà, on pourrait l'imaginer, une nouvelle qui aurait dû mettre toute la ville en liesse, vous pensez, ce sauveur promis depuis si longtemps par les prophètes est enfin arrivé. Allons vite avec ses mages à sa rencontre. Eh bien non, non, Hérode et le peuple sont troublés. Et pire encore, ces sommités religieuses qui étudient, qui enseignent ces textes au point de les connaître par cœur, sont tout aussi incrédules. Pensez donc, Hérode, devoir céder son trône, obtenu de manière très trouble, de manière intrigante et donc de manière illégitime. C'est impensable. Plutôt le tuer que de lui rendre sa place. Les scribes et autres pharisiens, pensez-vous, se mettre au service de leur Dieu ? Alors qu'ils ont la religion et le temple nouvellement reconstruits par Hérode, pensez-vous, ils représentent Dieu et le peuple, puisqu'ils sont placés entre Dieu et le peuple. Qui obtiendrait le pardon des péchés du peuple s'il n'y avait pas de grand prêtre pour faire les sacrifices ? Non, 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 c'est pas une bonne chose, cette annonce-là. Parce que cette religion serrée entre les droits et les devoirs n'a pas besoin des autres pages de la Bible. Cette religion se passe des promesses. Cette religion durera ce que durera le monde sous une forme ou sous une autre. Car cette religion-là satisfait tout le monde. Et pour le peuple qui vaque tant bien que mal à ses petites affaires, sans trop s'inquiéter du bien ou du mal. Mais qui est cet autre roi ? Que va-t-il bien apporter de pire que celui-ci ? Parce que cela va toujours de mal en pis, c'est bien connu. Quand je vous disais que toute la vie de Jésus est un énorme problème pour le monde, au lieu d'être une source de joie et une source de délivrance. Mais les mages, eux, ils ne s'y trompent pas, mais ils n'en ont que faire. Et avec ce précieux renseignement, ils peuvent maintenant aller au bout de leur voyage, précédés de cette précieuse étoile qui finit par s'arrêter au-dessus de sa destination. Et là, ils voient une maison, nous dit Matthieu, une maison toute simple, et un petit enfant et sa mère tout simple aussi. Ils venaient adorer un roi dans un palais, avec tout le prestige et le décorum qui va avec, et là, rien de tout cela. Ils auraient pu se regarder déçus et se dire « Quoi ? Nous avons fait tout ça pour ça ? Tout ce voyage, avec ses risques, avec ses fatigues, bref, Tout ce temps perdu, mais quel gâchis! On s'est bien fait avoir et on ne nous y reprendra plus, hein? Remarquez, cela aurait pu être une réaction normale à première vue. Mais rien de tout cela. Matthieu nous dit qu'ils, les mages, éprouvèrent une très grande joie. Ils sont vraiment contents en voyant l'enfant et Marie, sa mère, au point qu'ils déposent leur cadeau à leurs pieds, s'agenouillent et l'adorent. Ensuite, Matthieu nous dit qu'ils rentrèrent chez eux par un autre chemin. La joie, et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour ce culte, la joie est vraiment le point d'orgue de ce récit. La joie sincère et profonde de ces étrangers, venus de très loin pour adorer le Sauveur du monde. Remarquez que dans le Nouveau Testament, la joie est toujours liée au ministère messianique de Jésus. On en trouve un exemple marquant dans l'évangile de Luc au chapitre 10, où là, l'évangéliste nous dit que Jésus envoie 72 disciples en mission, deux par deux, dans les villes et dans les endroits où il devra passer. Et après un moment, ceux-ci reviennent et ils sont dans la joie de ce que même les démons leur sont soumis par le nom de Jésus. Il, Jésus, leur dit de se réjouir, non pas du pouvoir qu'ils ont sur les esprits, mais de ce que leurs noms sont inscrits dans les cieux. Et les versets 21 et 22 nous disent qu'à ce moment précis, Jésus fut transporté d'allégresse sous l'action de l'Esprit. Même Jésus peut se réjouir, même Jésus peut être transporté d'allégresse. Un autre exemple, dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4, versets 4 et suivants, Paul nous exhorte en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Et il insiste là-dessus. « Que votre attitude conciliante soit connue de tout, le Seigneur est proche. » Il ne faut donc pas chercher bien longtemps dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, pour trouver des références de cette joie entre, de cette relation entre joie et salut. Joie pour les mages procurée par la venue du Messie, et même joie pour nous aujourd'hui procurée par l'attente et la certitude de son retour, que nous verrons de notre vivant ou non, nul ne peut le dire, mais une attente joyeuse, une attente festive. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, une attente active. Attente active qui nous permettra, comme à ces vierges sages de la parabole, d'aller à la rencontre de l'époux le moment venu. C'est, je pense, la seule manière de ne pas être troublé par l'annonce du retour du roi des Juifs, ou pour nous, du Sauveur du monde. Joie chez les uns, trouble chez les autres. Lequel de ces deux sentiments nous habite ou nous habitera? Où portons-nous nos regards? En qui plaçons-nous notre confiance? Comment voyons-nous notre avenir? Et en parlant d'avenir, où se limite-t-il? Voilà un certain nombre de questions, me direz-vous. Mais quelles sont les réponses à y apporter? Je dirais qu'il revient à chacun de s'interroger, à chacun de chercher et d'y apporter ses réponses. Je laisse à chacun et à chacune d'entre vous le soin de répondre à ces questions qui sont très personnelles, car Dieu se trouve au cœur de sa parole. Il s'y cache peut-être, en tout cas aux yeux de certains. Mais une chose est cependant certaine, il se laisse toujours, et je dis bien toujours, trouver par celui qui le cherche sincèrement. Je parlais d'attente joyeuse, mais aussi d'attente active. Cette recherche, je dirais qu'elle constitue le premier pas, la première étape de cette attente active. Et je vais ouvrir ici une petite parenthèse. Il existe un outil de la parole, de l'étude de la parole de Dieu, que je trouve à la fois intéressant et indispensable à toute personne qui veut étudier la parole de Dieu, en dehors des études bibliques et autres possibilités offertes par la paroisse. Et cet outil, c'est un dictionnaire biblique. Quand, dans l'étude de la langue française, nous butons sur un mot, au point de vue de l'orthographe ou de sa compréhension, nous consultons le petit Larousse, le Larousse, le petit Robert, ou maintenant un dictionnaire en ligne. Dans le domaine qui nous concerne, il en va de même. Et je me sers régulièrement de ce dictionnaire biblique quand je prépare ici une réflexion, ou à l'époque quand je faisais des préparations pour le culte des enfants, parce que ce que je trouve formidable dans cet outil, si je prends par exemple le mot « joie », j'ai un peu toutes les références, toutes les connotations qui sont données ici et toutes les explications, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Rien que ce dictionnaire est déjà, quelque chose de très important qui a été écrit par des théologiens qui se sont basés sur l'histoire, sur les faits, qui ne sont pas des interprétations et des prédications. Ce sont des informations qui se veulent aussi exactes que possibles et basées sur des faits. Donc, c'est vraiment un outil que je vous conseille. Pour ceux qui sont amoureux de la langue française, pour nous ici en Belgique, c'est valable pour chacun dans son pays, et qui... Il fait régulièrement référence à un dictionnaire ou à des recherches sur Internet pour ce dictionnaire biblique et aussi pour le chrétien un ouvrage important pour progresser. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Et alors, commence pour cette personne un cheminement très personnalisé, pour reprendre une formule dans l'air du temps, un cheminement qui le conduira comme ces marches jusqu'à la présence et à la connaissance progressive de ce Sauveur dont parlent les Écritures. Présence qui procure une joie indicible et incommensurable. Alors, ni les guerres ou les bruits de guerre, ni tous les malheurs du monde n'auront de prise sur lui. Et donc, je pourrai, à ce moment-là, vous présenter mes vœux de joie et de bonheur pour l'année et les temps qui viennent, sans avoir l'air d'un innocent béat et naïf, vu que cette joie trouvera ses racines dans le Créateur de toutes choses. En guise de conclusion, je voudrais juste vous rappeler et souligner ce qui pour moi était l'essentiel de ce récit de la venue des mages. Ils ont vu le signe de Dieu. Ils l'ont cru et ils se sont mis en route. Et Matthieu ajoute qu'ils furent remplis de joie à la vue du Sauveur. Amen.